Prenons nos Bibles et regardons ensemble de nouveau dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 8. Et aujourd'hui, mon texte se trouve à partir du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre, verset 13. Et j'ai intitulé cette étude « De l'Ancien au Nouveau ». Ici, nous avons une partie des Écritures qui nous explique clairement, parce que des gens posent la question, mais quelle est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau? Donc, nous voulons étudier cette portion des Écritures pour en avoir la réponse. Donc, c'est pourquoi le titre, de l'Ancien au Nouveau. Je vais lire parce que la plupart de ce que nous lisons ici est une citation tiré de l'Ancien Testament, de Jérémie, chapitre 31, les versets 31 à 34. Mais c'est écrit dans le verset 7, d'Hébreux 8, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Déjà, nous commençons à voir pourquoi une transition de l'Ancien Testament au Nouveau, ou comme c'est écrit ici, la première alliance. Il s'agit là de l'Ancien Testament. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Et maintenant, du verset 8 jusqu'au verset 12, nous avons une citation directe du prophète Jérémie, dans Jérémie 31, verset 31 à 34. C'est écrit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je ferai. Tout le long ici, nous sommes en train de voir une comparaison ou contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Mais voici l'Alliance, le Seigneur dit, que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Après que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance est eut été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Quand c'est écrit tous, ce n'est pas tout le monde, mais tous ceux qui font partie de cette nouvelle alliance établie par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, tous ceux-là me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité. Donc, cette transition de l'Ancien Testament au Nouveau a eu lieu lorsque Dieu a pardonné les péchés de ceux qui faisaient partie de cette nouvelle alliance que Christ a établie par sa mort, comme il a dit à ses disciples la nuit avant d'aller à la croix, lorsqu'il célébrait la dernière Pâque avec ses disciples, il a dit, en parlant de la coupe, que cette coupe était la nouvelle alliance de son, dans son sang. Et voilà pourquoi il y a maintenant cette transition. Si on ne retient pas autre chose, en parlant de l'ancien au nouveau, qu'est-ce qui a changé? C'est la mort de Christ. C'est le fait qu'il est venu et qu'il a satisfait tout ce qui était écrit selon la loi et la justice de Dieu. Et le résultat est alors le véritable pardon des iniquités. Tout ce que les sacrifices de l'Ancien Testament pouvaient faire, c'était de couvrir, c'était une couverture des péchés. Mais dans la mort de Christ, il y a eu le pardon, la justification des pécheurs. C'est là que ça a eu lieu. C'est ainsi dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Rappelons-nous que les sacrifices dans l'Ancien Testament devaient être continuels parce que les péchés ne pouvaient jamais être ôtés. Chaque fois que les sacrifices étaient offerts, c'était un renouvellement du souvenir des péchés. Mais la mort de Christ étant une fois pour toutes et une fois pour toujours, il n'y a plus alors de péché, donc plus de souvenir des péchés. Ça, c'est vraiment une grâce de réfléchir et savoir que si Christ a payé la dette d'un pécheur, Dieu, qui sait tout, qui connaît tout, néanmoins, il ne se souvient pas des péchés de son peuple. Pourquoi? Le verset 13 nous donne maintenant le point clé. En disant une nouvelle alliance, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc voilà la transition que nous sommes en train de voir, de l'Ancien Testament au Nouveau. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Peut-être quelqu'un demandera, mais pourquoi ça ne dit pas « est disparu » Pourquoi c'est écrit « est prêt de disparaître » C'est parce que le Nouveau Testament était encore en cours et le Seigneur, par son esprit, continuait à diriger les écrivains à finir cette révélation et mettre ça dans les Écritures, faisant partie maintenant de notre Bible. C'était encore en cours, le Nouveau Testament. Mais une fois que Jean, l'apôtre Jean, a fini d'écrire le livre d'Apocalypse, c'est clair qu'il ne devait plus avoir encore de révélation. Et l'Ancien Testament, alors, étant achevé, et le nouveau établi, voilà maintenant que il y a eu ce changement. Alors, revenons dans verset 7 ici, et prenons ces versets pas à pas. Le fait que Dieu mentionne ici dans le verset 7 une autre alliance prouve qu'il manquait quelque chose dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit, si la première alliance avait été sans défaut. On peut toujours retourner en arrière et lire l'Ancien Testament, mais nous savons que tout ce qui a été écrit est écrit sous forme d'ombre, de type, de figure, d'image, mais non pas la réalité. Donc, en tant que telle, la première alliance avait ses défauts. Si l'ancienne alliance n'avait pas de défauts, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si cette première alliance avait été irréprochable, et nous savons que le problème n'était pas nécessairement avec l'alliance, parce que l'alliance a été établie par Dieu, la loi est bonne, la loi est spirituelle, c'est comme ça que Paul le dit dans Romains chapitre 7. Mais le problème, c'est avec les hommes, qu'aussi longtemps que cette alliance existait, les impositions de la loi, le défaut se manifestait davantage des hommes et des femmes qui étaient sous cette alliance, étant incapables d'obéir et d'accomplir ce que cette alliance exigeait. Donc, si Dieu a établi une nouvelle alliance, c'est ainsi que nous voyons sa grâce. S'il a établi une nouvelle alliance, cela signifie qu'il manquait quelque chose dans l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi nous allons voir maintenant dans les versets 8 à 12 ce qui manquait. Ici, la nouvelle alliance, dans ce passage tiré de Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, cette nouvelle alliance est présentée dans les Écritures comme la réponse au défaut de la première alliance. Dans ce passage de Jérémie 31, Dieu montre ce qui manquait dans l'ancienne alliance et annonce déjà, ce n'est pas que Dieu a mis en place l'ancienne alliance et puis il imaginait que oui, les hommes allaient obéir, donc c'est en fin de compte, il a dû reprendre et maintenant établir la nouvelle. Non, même dans l'Ancien Testament, ça a été prévu par Dieu lui-même qu'il devait avoir cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance était déjà promise. J'ai l'habitude de dire que le Nouveau Testament est dans l'Ancien caché et l'Ancien est dans le Nouveau révélé. Mais les deux étaient déjà en vue par Dieu lui-même à l'époque de Jérémie. La nouvelle alliance était encore dans le futur. C'est pourquoi il a dit dans le verset 8 cette phrase, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et lorsque nous continuons à lire, nous découvrons que cette maison d'Israël et cette maison de Juda n'étaient pas la postérité physique d'Abraham que Dieu a en vue ici, mais Israël spirituel. Que ce que la maison d'Israël et la maison de Juda n'ont pas pu accomplir en tant que juifs sous la loi, maintenant, dans le Nouveau Testament, il s'agit d'un autre Israël, un Israël spirituel, dont l'apôtre Pierre lui-même donne la signification dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 2, où il dit dans le verset 9, écrivant aux croyants du premier siècle, mais il faut dire aux croyants de cette nouvelle alliance établie dans la croix du Seigneur Jésus. Notons 1 Pierre chapitre 2, et le verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc voilà les comparaisons avec Israël à l'époque. C'était une nation élue, mais ça représente l'Église du Saint Jésus-Christ, formée des élus, une race élue de tout temps, depuis le début, depuis la création jusqu'à la fin du temps. Un sacerdoce royal. Nous n'avons plus de sacrificateurs qui doivent nous représenter devant le trône de Dieu, mais chaque élu, chacun pour qui Christ a versé son sang, est un sacrificateur devant Dieu, comme dans l'Ancien Testament, les Lévites, les sacrificateurs, servaient le souverain sacrificateur, Aaron. Ainsi, dans ce nouvel Israël, les sacrificateurs représentent les membres du corps de Christ. Comme sacrificateurs, nous n'avons pas besoin de passer par autre médiateur, mais qui sert Christ, notre souverain sacrificateur. Vous voyez les comparaisons, les contrastes. Une nation sainte, ce que Israël n'a pas pu être. Maintenant, à cause de la justification et la sanctification accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à l'égard de son peuple dans cette nouvelle alliance, alors chaque membre est déjà déclaré saint devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous poursuivons pour devenir saint. Notre sainteté est dans notre représentant, Christ, qui a accompli cela. Notons un peuple acquis. Voilà ce qui était nécessaire à ce que chaque membre de cette nouvelle alliance, de ce nouvel Israël, soit racheté. C'est ça le mot, acquis. Et réconcilié avec Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà l'importance de cette nouvelle alliance. Mais dans son contexte, revenant dans Hébreux chapitre 8, cette prophétie de Jérémie qui est citée ici vient probablement de l'époque lorsque Jérémie l'avait annoncé. C'était à l'époque du renouvellement de l'alliance de Josias, après avoir trouvé la loi. Si vous retournez en arrière dans le deuxième livre de Rois, des Rois, deux Rois, et le chapitre 23, cela s'est passé juste avant d'amener les tribus de Juda en captivité au temps de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mais ici, dans 2 Rois, chapitre 23, il y avait un roi parmi les autres mauvais qui était là, mais un roi, Josias, qui a amené des réformes en Israël et a détruit les idoles et a dénoncé l'idolâtrie à l'époque. Ici, dans 2 Rois, chapitre 23, le verset 3, le roi se tenait sur l'estrade parce qu'ils ont trouvé la loi qui était mise de côté, et il traita, notons, alliance avant, devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Donc c'est à cette époque que Jérémie a dû écrire ce que nous sommes en train de lire ici dans Hébreux chapitre 8 et le verset 7. Ce renouveau était bon, mais ce n'était pas suffisant, car Jérémie attendait, même en écrivant ce qu'il a écrit ici, avec impatience, cette nouvelle alliance. Même Jérémie, en citant ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, avait en vue que cette alliance ancienne ne pouvait pas être gardée. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur lui montre la nécessité de cette nouvelle alliance. Donc, revenons dans Hébreux chapitre 8. Lorsque c'est écrit « Je ferai », notons dans le verset 8, qui parle là? C'est le Seigneur. Je dois dire que la loi entre les mains des hommes ne peut jamais être satisfaite. La justice de Dieu ne peut que condamner les pécheurs, mais ici c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Je ferai ». Donc, c'est le Seigneur qui a clairement indiqué que cette alliance devait provenir de lui-même, de Dieu, et non de l'homme. C'est pourquoi nous pouvons nous reposer en tout ce qui est accompli et révélé dans le Nouveau Testament de la part du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu, sachant que l'homme ne pouvait pas accomplir ce que Dieu exigeait. Donc, c'est lui qui est venu. Ici, nous voyons alors des contrastes, parce qu'au Sinaï, sous l'ancienne alliance, nous voyons, par exemple, dans Exode chapitre 19 et le verset 5, l'ancienne alliance était conditionnée sur l'obéissance de ceux qui étaient sous cette alliance dans Exode chapitre 19. Notons comment Dieu l'a précisé, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, il s'agit là de l'ancienne alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples de toute la terre est à moi, car toute la terre est à moi. C'est ainsi que nous voyons ce contraste, parce que l'ancienne alliance était fondée sur l'obéissance exigée de ceux qui étaient sous cette alliance. C'est pourquoi c'était nécessaire qu'il ait une seconde pour la remplacer, parce que l'homme ne peut pas. C'est exactement comme dans le jardin avec Adam. Adam a eu un seul commandement, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait accès à l'arbre de vie, pourtant il n'a pas pu, même dans son meilleur état, il n'a pas pu. Et c'est comme ça tout le long de l'Ancien Testament. Mais la différence que je voudrais noter ici, concernant la nouvelle alliance, c'est que c'est Dieu maintenant qui parle. Heureusement, je le ferai, je ferai. Donc, dans la nouvelle alliance, les mots-clés sont « je le ferai », en contraste avec les mots-clés dans l'ancienne alliance « si vous ». Pas de « si » maintenant, parce que c'est Christ qui est venu accomplir. Alors, il s'agit, comme c'est écrit dans le verset 8, d'une nouvelle alliance. C'est dans cela que je voudrais expliquer et clarifier comment cette alliance est nouvelle, parce que cette alliance est vraiment nouvelle. Ce n'est pas simplement renouvelée ou bien améliorée. Ce n'est pas ce que les Écritures disent, comme la façon dont les choses nous sont présentées aujourd'hui. On voit ça dans le domaine commercial. Quand vous entrez dans le magasin, vous voyez des produits et nous voyons les indicateurs qui disent « nouveau » ou bien « amélioré ». Mais ce n'est pas dans ce sens-là que nous avons la nouvelle alliance. Ce n'est pas que Dieu a simplement pris l'ancienne alliance pour essayer de l'améliorer ou bien représenter cela de nouveau, d'une autre manière. Quand Dieu dit nouveau, il veut dire nouveau, nouveau. C'est une nouvelle alliance. Parce que le verset 9 nous donne ce contraste, n'est-ce pas? Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. C'est pourquoi nous ne pouvons pas retourner dans l'Ancien Testament pour reprendre ce qui a fait la condamnation de ceux qui étaient déjà sous la domination de ces lois et ces règlements. Personne dans l'Ancien Testament n'a pu obéir et alors a pu être sauvé par l'obéissance à cette alliance ancienne. En fait, il y a deux mots grecs anciens qui décrivent le concept de nouveau. Il y a un mot et ça décrit la nouveauté par rapport au temps. Quelque chose peut être nouveau en ce qui concerne le temps. Quelque chose peut être une copie de quelque chose d'ancien qui a été récemment recréé et donc peut être appelé nouveau. Nous avons ça dans des voitures, des motos et autres. C'est le même modèle, mais chaque fois on fait ressortir un nouveau modèle. Mais ce n'est pas le mot qui est utilisé ici. Il y a un autre mot grec ancien, et c'est ça le mot qui est utilisé ici par nouvelle, nouveau. Ça décrit quelque chose qui n'est pas simplement nouveau en référence au temps, mais c'est vraiment nouveau dans sa qualité. Ce n'est pas comme, voilà ce que le verset 9 dit, non comme. Ce n'est pas simplement une nouvelle reproduction de quelque chose d'ancien, mais nouvellement établi. Et cela, comme j'ai déjà expliqué, devait être fait avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais non comme l'alliance faite avec leur père, mais un nouveau peuple, un nouvel Israël, et donc une nouvelle alliance pour ce peuple. Et la différence, nous voyons ici, parce qu'il explique la différence dans le verset 9, comment il a fait sortir ce peuple d'Égypte, mais encore, entre leurs mains, ils n'ont pas pu persévérer, vous voyez ça dans le verset 9, et Dieu dit simplement, je ne suis pas soucié d'eux. Il y a d'autres, beaucoup aujourd'hui, qui veulent croire que non, Dieu réserve toujours une préférence pour le peuple juif. Et donc, dans leur prédication, les prédicateurs du jour sont toujours en train de parler comme si le peuple physique, les descendants naturels d'Abraham sont le peuple préféré de Dieu. Non. Ici, même parlant de l'ancien Israël, Dieu dit, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Dieu devait préserver ce peuple d'Israël provisoirement jusqu'à ce que Christ soit venu. Mais une fois que Christ est venu, il n'y a plus aucune raison pour l'existence de ce peuple d'Israël aujourd'hui, sauf que Dieu lui-même a dit qu'il préservera ce peuple comme une nation jusqu'à la fin du temps, c'est tout. Mais comme nous lisons ici, que lorsque Dieu, par Christ, a établi cette nouvelle alliance dans son Fils, le Saint Jésus-Christ, chaque pécheur, et là nous savons que les Écritures nous disent qu'il a son peuple élu de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. C'est là le peuple de Dieu. Et il dit, alors dans le verset 10, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Vous savez, le nom Israël signifie « presse avec Dieu ». Donc, nous pouvons remplacer la maison d'Israël là avec la maison de Christ, parce que c'est Christ qui est l'Israël de Dieu, c'est lui qui est le prince de paix. Aux yeux de son Père, c'est lui qui règne. Et donc, après ces jours-là, dit le Seigneur, nous voyons donc cette transition de l'ancien au nouveau. Les faiblesses de l'ancienne alliance, encore, n'étaient pas dans l'alliance elle-même, mais c'était dans la faiblesse ou l'incapacité de ceux qui étaient sous cette alliance. C'est la raison pour laquelle l'ancienne alliance n'a pas fonctionné et qu'elle n'a pas continué parce que c'est écrit, ils n'ont pas pu continuer. Ils n'ont pas pu, verset 9, préserver. Alors voilà la grâce de Dieu que dans la faiblesse des pécheurs, c'est Dieu lui-même qui a établi dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, cette nouvelle alliance. Et a établi ça, non pas sur les sacrificateurs ou bien les souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, non. Voilà l'importance de l'ordre de Melchizedek, roi de justice, roi de paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, là, le résultat, c'est comme nous avons vu. Et c'est évident que ça parle là de l'œuvre de Christ, que Dieu devait alors par son œuvre pardonner les iniquités de chacun dans cette nouvelle alliance et ne plus souvenir de leur péché. C'est pourquoi la nouvelle alliance est meilleure, parce que dans la nouvelle alliance, nous avons une véritable purification complète du péché, la justification devant Dieu. Et cela était différent et meilleur que la simple couverture du péché dans l'ancienne alliance. Alors je voudrais venir maintenant dans le verset 13 pour conclure. Quelle est alors la signification de cette nouvelle alliance, surtout dans nos prédications? Parce qu'il s'est écrit une nouvelle alliance et ainsi, la première a été rendue obsolète. Maintenant, ce qui devient obsolète est vieilli et prêt à disparaître. Et maintenant que nous lisons cela, nous pouvons dire oui, c'est complètement disparu, vu le fait que le Nouveau Testament maintenant est complet. Alors, quelle est la différence? Quelles sont les différences? Ça, c'est tout un message que, si vous voulez noter ces points de différence, je sais que nous n'aurons pas le temps de tout comprendre dans ce message-ci, parce que en étudiant, j'ai relevé 17 différents points entre l'ancienne alliance et la nouvelle, mais je vais simplement les citer ici. Premièrement, ils ont été institués à des époques différentes. Quand on parle de l'ancienne alliance, il faut dire que c'était à peu près 1446 ans avant Christ. Et la nouvelle alliance vers l'année 33 après Christ. Deuxièmement, ils ont été institués à différents endroits. Quand on note les différences, l'ancienne alliance était au mont Sinaï, la nouvelle alliance au mont Sion, Calvaire. On ne doit pas les confondre, nous devons rester sur Calvaire, parce que c'est là que Christ a tout accompli. Numéro 3, ils ont été parlés ou donner, révéler de différentes manières. Quand on étudie dans Exode chapitre 19, lorsque Dieu a donné sa loi, l'ancienne alliance a tonné de peur et d'effroi au mont Sinaï. Mais en ce qui concerne la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ, toute la justice de Dieu est tombée sur lui comme fils de Dieu. Et cette nouvelle alliance, en contraste avec l'ancienne, a été révélée avec amour et grâce pour ceux pour qui Christ représentait. Numéro 4, ils ont des médiateurs différents. Moïse a été le médiateur de l'ancienne alliance, mais il n'était qu'un simple homme. Mais Jésus est le médiateur de la nouvelle, le Dieu homme. Numéro 5, ils sont différents dans leur sujet. L'ancienne alliance exigeait une alliance d'œuvre. Je crois que même dans l'ancienne alliance, il y avait le message de grâce dans les sacrifices, mais pour son efficacité, ça exigeait l'obéissance des hommes. Mais en ce qui concerne la nouvelle alliance, ça a été accompli à travers l'œuvre unique du Seigneur Jésus-Christ. Pas les œuvres, mais l'œuvre unique du Seigneur Jésus. Numéro 6, ils sont différents dans la façon dont ils ont été consacrés. Dans l'ancienne alliance, ça a été consacré avec le sang des animaux aspergé sur le peuple. Et vous pouvez noter la référence dans Exode 24, versets 5 à 8. Mais la nouvelle alliance a été consacrée, comme nous sommes en train de voir à travers cette épître aux Hébreux, avec le sang signifié. Singulier de Jésus, signifiant sa mort sacrificielle appliquée à son peuple pour qui il est mort. Numéro 7, ils sont différents dans leur sacrificateur. L'ancienne alliance est représentée par le sacerdoce de la loi de Moïse et des souverains sacrificateurs descendants d'Aaron. Mais la nouvelle alliance a un sacerdoce de tous les croyants. Chaque croyant, chaque membre élu du corps de Christ est un sacrificateur devant Dieu. Et Christ est notre sacrifice. Mais en cela, nous avons un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui n'avait pas de commencement ni de fin. Numéro 8. Deux testaments sont différents dans leur sacrifice. L'ancienne alliance exigeait une répétition sans fin des sacrifices, parce que les sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. Mais la nouvelle alliance nous donne un sacrifice parfait, une fois pour toutes, et celui du Fils de Dieu lui-même. Numéro 9. Les deux sont différents dans la façon et l'endroit où ils ont été écrits. Notons, c'est ce qu'il a dit dans notre texte, dans le verset 10. Dieu a dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. L'ancienne alliance a été écrite par Dieu sur des tablettes de cailloux, de pierre. Mais la nouvelle alliance est écrite par Dieu dans le cœur de son peuple, par l'Esprit. Numéro 10, ils sont différents dans leur objectif. Le but de l'ancienne alliance était de découvrir le péché. Je ne peux pas insister assez là-dessus. Ça n'a jamais été donné comme moyen de salut. Mais pour découvrir davantage le péché et de condamner et de mettre une clôture autour du péché. Mais le but de l'ancien, de la nouvelle alliance est de déclarer la grâce et l'amour et la miséricorde de Dieu à travers la rémission des péchés ôtés par Christ lui-même jusqu'à la vie éternelle. Numéro 11, ils sont différents dans leur effet pratique sur la vie. L'ancienne alliance se termine par la servitude. Encore sans faute de sa part, mais si quelqu'un veut se lever pour prêcher les lois de l'Ancien Testament, tout ce que ça peut faire, c'est de condamner. La nouvelle alliance représente une vraie liberté de pouvoir servir notre Dieu en toute liberté, comme fils et non pas comme esclave à cause de l'œuvre de Christ. Numéro 12, ils sont différents dans leur don du Saint-Esprit. Sous l'ancienne alliance, le Saint-Esprit, bien sûr, était à l'œuvre. Mais tout ce que l'Esprit pouvait faire, c'était de prendre ce qui était écrit dans la loi et condamner davantage le peuple. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit qui est répandu librement sur tous ceux qui sont les objets de l'œuvre de Christ et l'objet de la foi. Numéro 13, ils sont différents dans leur concept du royaume de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le royaume de Dieu était principalement considéré comme le règne suprême d'Israël et sur les nations. Mais dans la nouvelle alliance, le royaume de Dieu est une réalité spirituelle présente. C'est-à-dire, une fois que Christ est mort et ressuscité, c'est là que son royaume sur la terre a été établi et continue pour l'éternité. Donc, ce n'est pas visant un peuple particulier dans un lieu géographique comme la nation d'Israël, mais c'est le royaume de Dieu qui règne sur tout. Numéro 14, ils sont différents dans leur substance. L'ancienne alliance a des ombres vives. C'est comme ça que c'est représenté. Mais la nouvelle alliance, c'est la réalité. Numéro 15, ils sont différents dans l'étendue de leur administration. L'ancienne alliance était limitée aux descendants d'Abraham à travers Isaac et Jacob selon la chair. Mais la nouvelle alliance, nous avons déjà cité, il est étendu à toutes les nations et races sous le ciel, là où il se trouve les élus pour qui Christ est mort. Numéro 16, ils sont différents dans ce qu'ils accomplissent réellement. L'ancienne alliance n'a rien fait de parfait, mais la nouvelle alliance apporte la perfection au peuple de Dieu. Comment? Par l'œuvre de Christ. C'est par sa mort, son sang versé, que ce peuple est justifié. Et puis, numéro 17, ils sont différents dans leur durée. L'ancienne alliance a été conçue pour préparer le chemin de la nouvelle alliance et ensuite disparaître au moment où la nouvelle alliance était établie. Mais la nouvelle alliance a été conçue pour durer éternellement. J'espère que cela nous aide à comprendre cette transition de l'ancien au nouveau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.